Oui,
le ch'ti oui oui.
La CHAM, ça veut dire déjà classe à horaire aménagée musique.
Chère Sandra, merci d'avoir eu l'amabilité de m'écrire. Écris-moi à nouveau et dis-moi plus sur toi.
Demande d'asile ne veut pas dire souffrance ou malheur.
L'émission est réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radio le samedi matin, de 10h à 11h30 au centre social d'Arras-Ouest.
Bienvenue à tous au Ch'ti Boui Boui sur le 99.9 fréquence de PFM.
C'est une émission réalisée dans le cadre de l'atelier de découverte radiophonique. Chaque samedi en partenariat avec le centre social Arras-Ouest, qui est situé avenue de l'Hippodrome. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'abord du jardin partagé du centre social de Borin avec Marc. Ensuite, Eladj, tu nous présenteras un artiste sénégalais.
Eh oui Rémi, 99.9 de l'émission Ch'ti Boui Boui nous amènera sur les rives de la Teranga au Sénégal avec comme artiste invité Aliou Mbaïnder sur les platines.
Mamadou, tu vas nous éclairer sur deux mouvements religieux.
Oui, aujourd'hui je vais vous présenter deux mouvements religieux, les sunnites et les chiites.
Et quant à moi, je vous inviterai à me suivre au Casino d'Arras pour une exposition qui s'appelle « De terre et d'acier ». Mais pour l'instant, on commence avec un sujet de saison, on parle jardin en compagnie de Marc Deruy.
Bonjour Marc, pouvez-vous nous expliquer le principe de votre jardin ?
Bonjour Christelle. Le principe du jardin, eh bien, il a été adopté quand on a créé les jardins rue Victor Hugo, 11 parcelles. Et la 11e parcelle, on a dit que ce sera une parcelle qui appartiendra au centre social. Et on a appelé ça le jardin partagé.
Comment se fait le choix de ce qui est planté ?
Alors, comment on fait le choix ? Moi, j'arrive avec ma petite boîte en bois où il y a des graines. Alors, les enfants, puisque c'est souvent les enfants qui viennent semer ou planter, et ils choisissent ce qu'ils veulent planter le jour même. Alors, le terrain, souvent, il a été préparé par l'ensemble des 10 autres jardiniers qu'il y a là. Et puis, il ne reste plus qu'à faire la ligne, semer, et puis et attendre que ça pousse.
Est-ce que vous faites du bio ?
Ah, ben évidemment qu'on fait du bio. Tous les jardiniers ne font que du bio. Et je dirais même que les jardiniers du Nord, les ch'tis, ils font du bio dans des biogardins.
Je voulais demander s'il y avait des pièges dans la boîte en carton avec les graines, parce que selon les saisons, forcément, il y a des choses qu'on plante pas. Est-ce qu'on laissait les enfants découvrir ce système
Déjà, oui, parce que ce qu'il faut, c'est découvrir ce qu'on va semer, parce que la photo, elle est sur le sachet, mais il faut aussi regarder la graine et essayer de reconnaître les différentes graines, parce que un bon jardinier, il doit savoir, sans le paquet, savoir que c'est une graine de navet, une graine de radis ou une graine de poireau.
Et donc le calendrier des semences est aussi...
Il y a un calendrier. Alors je vais vous donner l'astuce du calendrier. Avril, semant. Mai, poussant. Juin, repiquant. Et juillet, récoltant.
Alors, combien vous êtes de jardiniers dans votre jardin ? Et vous en avez parlé, il y a des enfants. Il y en a combien à peu près ?
On ne peut pas beaucoup les compter. C'est surtout les enfants qui viennent jardiner. Les autres jardiniers, ils viennent labourer la terre, comme ça s'est fait cette semaine, par exemple, afin que la terre soit prête pour que les enfants des centres de loisirs, les enfants des TAP, des nouvelles structures scolaires, ils viennent de 4h à 17h, de 16h à 17h, et bon, des adultes, pas vraiment, mais c'est surtout des enfants, oui.
Moi qui suis novice en la matière, si je viens demain dans votre jardin, est-ce que je vais trouver une aide, un tuteur ?
D'abord, il faudra que je te donne la clé.
Ah, bien pratique.
Ça sera quand même plus pratique pour rentrer. Et puis, pour avoir un tuteur, bon, faut prendre rendez-vous avec un jardinier ou avec moi ou quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir jardiner à l'aise, quoi.
Comment cela se passe pour la récolte et le partage de la récolte ?
Alors la récolte, elle se fait souvent sur place Par exemple, si on a mis une route de radis, les enfants, ils viennent toutes les semaines et des radis, en 3 semaines, ils peuvent déjà les manger. Ce qui fait que quand il y a une volée d'enfants dans le parc
la
de
ligne
radis,
de radis, elle disparaît tout de suite.
Un quart d'heure après, il n'y a plus de radis. Voilà, bon, c'est mangé sur place. Bon, ensuite, au mois de juillet, août, quand on arrache un pied de pomme de terre, ben, ils sont tout contents de partir avec 2 ou 3 pommes de terre pour faire voir à maman et à papa qu'ils ont cueilli des pommes de terre. Et puis ensuite, la récolte de haricots verts, petits pois, carottes, tout ça, ça part directement au centre social où on fait les ateliers petits pots ou la cuisine pour, avec les seniors et... Voilà, en principe, là, j'en mets aussi au congélateur à disposition, ça, parce que bon, pour ne pas gâcher, il faut réussir à conserver ça au congélateur.
Oui. Qu'est-ce que cela apporte au quotidien aux jardiniers ?
Qu'est-ce que ça rapporte au quotidien ? Je vais tout baser sur le mot santé. C'est 3 fois la santé. C'est la santé parce qu'on mange de bons légumes, c'est la santé parce qu'on fait de l'exercice, et la 3e santé, c'est la santé du porte-monnaie. Un jardin de 150 mètres carrés, c'est une économie approximative de 1 000 à 1 200 euros par an. Quand on regarde le prix des légumes dans les supermarchés, vous verrez que j'ai raison.
Je pense que tu as oublié peut-être une santé.
Oui.
La santé psychologique.
Oui, la santé psychologique. Oui, mais déjà, je pense que psychologie. Oui, voilà, on est dehors, on respire, on boit un coup avec les copains.
Ah, c'est mauvais pour la santé.
Ça, c'est pas bon pour la santé, ça dépend. Hein,
le copain, il s'appelle Modération.
Oui, mais Modération, il n'est pas jardinier.
À qui appartient cette parcelle ?
Alors, la parcelle appartient, c'est du terrain communal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en commençant. Il y avait là du terrain communal qui était en friche, sur lequel on ne pouvait pas bâtir parce qu'il y a des cavités en dessous. À 30 mètres de fond, il y a une caverne, donc on ne peut pas bâtir dessus. De ce fait-là, on en a fait des jardins il y a une dizaine d'années. Il y a 11 parcelles de jardins là.
Comment faire partie de l'équipe et à quelle fréquence venir ?
Comment faire partie de l'équipe ? Bon, alors d'abord, il faut avoir le sens jardinier, c'est-à-dire qu'il faut aimer ça. Si on vient les mains dans les poches ou si on a peur de se baisser, si on ne veut pas désherber, voilà. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui viennent dans ce jardin partagé. Il y a surtout les enfants et puis un peu le CAJ. Les adultes ne sont pas très très intéressés.
Est-ce que des ateliers de découverte sont prévus, par exemple des animations, des rendez-vous ?
Oui, ça nous arrive de faire des animations. On fait tous les ans, il y a une porte ouverte pour l'ensemble des jardins de France. Donc on essaye de faire porte ouverte. Et puis là, le 25 avril, au centre social Chico Mendes, on va faire le troc vert. C'est le 3e troc vert de l'association des jardiniers des 4 saisons, puisque l'ensemble des jardiniers de Borin sont réunis en association. Et donc on fait un troc vert. Un troc vert, ça veut dire qu'on vient, on amène des graines, on amène des pousses, on amène et puis on échange. Il n'y a pas d'argent en jeu, on échange. Et puis on échange en même temps aussi quelques conseils les uns et les autres. Ce n'est pas qu'on aime beaucoup donner des conseils, mais pour jardiner, il y a quand même des règles, c'est sûr.
Donc ces échanges permettent aux uns aux autres d'apprendre un peu le jardinage, en fait.
Oui, voilà. Moi, je me base toujours sur... c'est pour ça, bon, ça ne se voit pas à la radio, mais j'amène toujours cette photo. Et puis, j'aime bien avoir un tableau sur lequel c'est écrit en grand la question qu'on va me poser. Et la question qu'on va me poser, c'est pourquoi je n'ai pas la main verte ? Alors que c'est idiot, parce que tout le monde a la main verte à partir du moment où on suit les règles normales de la nature.
La mise en valeur du travail des enfants dans les jardins, elle se fait par un biais particulier ?
Oui, parce que la mise en valeur, elle se fait naturellement quand le gamin, on voit qu'il est passionné par ce qu'il a fait et qu'il le raconte à ses parents et que dans Borin, puisque je suis conseiller municipal à Borin aussi depuis 1977, alors c'est pas récent, donc je connais beaucoup les parents, ils viennent me dire, le gamin, il a été content. Hein. Bon, ben, dans ces cas-là, moi aussi, je suis content.
C'était Marc de Ruy qui, j'espère, vous aura donné envie de jardiner. Place à la musique dans le Ch'ti Bouboui. Et Ladj, tu nous présentes qui aujourd'hui?
Rémi, je vous présente cette fois-ci Aliou Baïder. Aliou Baïder est un chanteur sénégalais né en 1969. Danseur et percussionniste, il devient membre du célèbre groupe de musique Super Djamuno, auquel il donna une impulsion grave. À sa voix grave se joint un style de danse sans précédent. Il révolutionna cette danse appelée Mbalax par sa prouesse des gestes simples et uniques en son genre. Dans ce morceau que je vous propose, c'est un remix du célèbre tube de Michel Chardou, La Maladie d'Amour, qui fut accueilli très bien en Afrique l'année de sa sortie. C'est un morceau chanté en wolof et en français, et Aliou Baïder nous le prouve à travers ce que vous allez écouter.
Enfants de cette ascension dissidente. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit des cheveux blonds, des cheveux gris. Minidao, mon minidao, le mbeholu koneyi. Il y a un plomnyariat, la plomnyar foukiat aknyar. Chanter les enfants et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes. Elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Mingi way, mon mingi way, der kounya que kersengi. Principe mon monde auquel à mon corps au bout m'baboué. Bequel m'en a fait tout élevé qui parle l'école. Car si quand même tu es jungle. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Oh,
Retrouve Rémi, tu nous présentes quelle expo ?
Je vous présente l'exposition De Terre et d'Acier. Je me transforme aujourd'hui en guide d'exposition et vous invite à me suivre au casino d'Arras fraîchement rénové. Enfin, nous n'accédons qu'à une partie du casino, la salle qui se situe en son dessous pour visiter l'exposition De Terre et d'Acier qui nous présente les nombreux vestiges archéologiques de la Grande Guerre, la guerre 1914-1918. Pour rappel, ce conflit mondial débute le 2 août 1914 et se termine le 11 novembre 1918. 72 nations belligérantes, 9 500 000 morts dont 650 000 disparus, 6 000 morts par jour, 14 millions d'animaux mobilisés et un chiffre marquant, 1000 milliards, le nombre d'obus et de munitions de tout type tirés durant le conflit. 4700 communes dévastées rien qu'en France. Suivez-moi donc dans cette expo, mais avant de vous la présenter, laissez-moi vous soumettre une interrogation. Que vais-je apprendre que je ne sais déjà sur cette guerre ? Nous voici donc en sous-sol du casino et on découvre pour commencer les armes avec lesquelles les belligérants s'affrontaient. Surprise, on nous présente des armes rudimentaires, des armes du passé, des catapultes à grenades, des arbalètes, des masses, des cuirasses. On se croirait sur un champ de bataille du Moyen-Âge. Un peu plus loin, on découvre un rouleau de fil barbelé aussi grand que moi. Inventé par le français Louis Janin en 1865, cette invention fut améliorée et brevetée 10 ans plus tard par l'américain Joseph Glidden. Ce fil barbelé s'impose comme élément défensif dans ce qui fut appelé « guerre de position ». Il protège très bien les tranchées. Rendez-vous compte, rien qu'en Nord-Pas-de-Calais, 24 000 tonnes de barbelés furent ramassées. Des tranchées, on passe aux abris souterrains nécessaires pour se soustraire à la puissance dévastatrice des bombardements toujours plus actifs et puissants. Les abris sont profonds et très bien conçus, certains sont dotés d'électricité et de chauffage, de chambres, de cuisine, pour assurer un minimum de confort quotidien. Confort qui bien vite est oublié, la guerre fait rage encore et toujours, le gaz fait son apparition, l'armée allemande fait la première son utilisation le 22 avril 1915 à Ypres en répandant un nuage de chlore. Cette action donne alors un nouveau visage à la guerre avec l'apparition des premiers masques à gaz. On parle archéologie et on nous présente donc des objets retrouvés lors de fouilles récentes. Et en mai 2010, à Mamé dans la Somme, on découvre une arme terrifiante, le dragon de la Somme. Un lance-flamme long de 19 mètres, large de 40 cm et pesant 2,5 tonnes. Il produit un jet d'essence de 100 mètres de long, rendez-vous compte. Un documentaire nous propose de découvrir le test d'une réplique de cette arme effroyable. Ce conflit mondial voit aussi l'apparition des premiers chars d'assaut en novembre 1917 lors de la bataille de Cambrai, engagée par l'armée britannique. En 1998, un passionné de cet épisode de la Première Guerre mondiale localise un site où serait enterré un de ces chars d'assaut. Les fouilles sont menées avec l'aide du service archéologique de la ville d'Arras et on retrouve le D-51 Déborah qui aujourd'hui est le seul objet de la Grande Guerre classé à l'inventaire des monuments historiques. L'expo continue avec l'artisanat de tranchées, les soldats agrémentent le quotidien avec des morceaux de bois sculptés, des cartes postales faites avec des écorces de bouleau, des douilles gravées, Et on découvre aussi que l'hygiène était primordiale, un soin particulier était donné aux dents. On nous propose de traverser un abri reconstruit, et en sortant, on découvre la couche d'un soldat. Puis l'on tombe enfin sur des histoires de soldats disparus et retrouvés quelques années plus tard, enfin 80 ans plus tard, soldats à qui l'on donne des funérailles dignes de leur vie sacrifiée. L'expo se termine, il est temps de remonter à la surface avec cette question que je me posais. Qu'allais-je apprendre que je ne savais déjà ? Eh bien, j'ai découvert le quotidien d'horreur que vécurent les soldats qui se battaient pour notre liberté. J'ai découvert des horreurs avec ces armes que l'on nous présente, et j'aurais tant aimé que jamais n'ait lieu cette exposition et que jamais n'ait eu lieu ce conflit. Mais ce n'est pas le cas, c'est la réalité que l'on vous présente avec cette exposition de terre et d'acier au Casino d'Arras du 9 avril au 23 août, tous les jours sauf les lundis et jours fériés, 11h-18h, 5€ le droit d'entrée, 4€ sous certaines conditions.
Alors mesdames et messieurs, qu'attendons-nous pour s'indigner ? Qu'attendons-nous pour nous faire vivre ces si belles vérités que l'on chanterait en liberté ? Seule l'addition de nos faiblesses feront la force de cette union. Nous sommes seuls rois de nos destins, et si la France est notre royaume, nous reprendrons ce vieux château. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France. Alors bien sûr, je comprends bien que certains cèdent à la panique. À force de crier au loup à travers ce tube cathodique, j'entends ces chants pas catholiques. Rendons utile toute cette colère pour qu'elle transforme nos quotidiens. Et que l'on s'aime, que l'on s'haïsse, nous vivrons tous le même chemin que d'autres appellent le 18 juin. J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France.
Mamadou aujourd'hui va nous éclairer sur la population sunnite et chiite, les différences et leur religion, en fait, en quoi ça consiste.
Lorsqu'on entend sunnite et chiite, on voit le Proche et le Moyen-Orient, car c'est dans ces deux parties du monde qu'il existe plus de tensions entre sunnites et chiites. Ce qui est important de souligner, c'est qu'au vivant du prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, il n'y avait ni sunnites ni chiites. À son décès en 632 après Jésus-Christ, il a été succédé par quatre califes. Le premier fut Abu Bakr, le deuxième Omar, le troisième Othman et le quatrième Ali. C'est durant la succession des Ali qu'apparaît le clivage qui existe aujourd'hui entre les musulmans. Ali était le gendre du prophète Mohammed, le mari de Fatima, l'une des filles du prophète Mohammed. Mais la mort de Ali a mis également fin à la période des califes. Comment est venu ce clivage sunnite-chiite au sein de l'islam? Trois faits ont provoqué ce clivage. Premièrement, lorsque Ali est devenu calife, lui et ses partisans prônent une grande rigueur dans la pratique de l'islam. Deuxièmement, il recommande aussi que le calife revienne en descendant en ligne directe du prophète Mohammed. Et troisièmement, il dénie toute légitimité aux trois premiers califes qui n'étaient pas les descendants du prophète Mohammed. Ali et ses partisans s'opposent sur ce point aux orthodoxes, adepte d'une application souple de la doctrine musulmane. Donc, à partir de là, ceux qui ont voulu suivre la voie de Ali et ses partisans sont appelés chiites, et ceux qui ont voulu une application souple de la doctrine musulmane sont appelés sunnites. La considération de l'imam chez les chiites et les sunnites. Selon les chiites, l'imam est un homme de la descendance d'Ali. Ils ne reconnaissent pas l'interprétation communautaire du Coran et de la tradition. Il proclame que l'autorité doctrinale est dévouée à l'imam, le proposé, dont l'infaillibilité de place comme le médiateur
entre Dieu et ses créatures, dont tous les fidèles lui doivent allégeance, ce qui constitue un blasphème chez les sunnites. Selon les sunnites, l'imam c'est quelqu'un qui préside tout simplement à la prière, même s'il est censé connaître le Coran. Mais tous les fidèles ne doivent pas aussi allégeance comme chez les chiites. Il n'est pas non plus considéré comme un médiateur entre Dieu et ses créatures.
Moi, j'ai un truc, du mal à comprendre. Donc, Ali, c'est lui qui incarne plutôt le mouvement sunnite, c'est lui à la base, c'est bien ça, qui, normalement, défend le fait que ce soit en lignée directe. Mais lui, c'était pas un successeur direct, Ali, d'après ce que j'ai compris.
Bien sûr, Ali était un successeur direct parce que le prophète, avant son décès, il n'avait pas désigné telle personne doit être mon successeur. Mais selon, après son décès, ils se sont réunis. Abou Bakar a été désigné à travers son caractère parce que c'est quelqu'un qui était vraiment saint. C'est en fonction de ça qu'on l'a désigné. Et tous les successeurs de Abou Bakar jusqu'à Ali ont été désignés en fonction de leur caractère et non de leur appartenance à la famille du prophète Mohammed. Salut et bénédiction sur lui. Mais lorsque Ali est venu, donc les partisans d'Ali, vous savez que dans toute organisation humaine, dès lors qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, il y a un petit clan. Donc les gens qui supportaient Ali ont souhaité que tous les successeurs désormais, au lieu que ce soit des amis ou bien quelqu'un qui est saint, mais tous les successeurs, tous les califes doivent être un descendant direct du prophète Mohammed. Et du coup même, les chiites, même actuellement, les chiites ne reconnaissent pas le prophète Mohammed comme un vrai prophète. Ils considèrent Ali comme le prophète. C'est ça le problème fondamental.
Donc c'est les successeurs d'Ali qui doivent, pour eux,
et plus les
successeurs de Mahomet.
Non, pour les chiites, c'est les successeurs de Ali, parce que Ali est le gendre de prophète Mohammed, et du coup, les califes doivent être soit le fils de Ali ou bien les petits-fils de Ali.
Voilà.
J'apporte juste une explication. En fait, le prophète n'a pas eu d'enfant garçon. Donc, ce qui fait que Fatima, sa première fille, a été épousée par Ali. Donc, puisque le prophète n'a pas eu d'enfant, n'a pas eu de fils, donc il fallait que cette succession vienne toujours du prophète. Mais comment ? Que le mari de sa fille, c'est-à-dire son beau-frère, devienne calife.
Beau-fils.
Son beau-fils plutôt. devienne calife. Donc, c'est ce qui fait que Ali est devenu calife après la mort du prophète.
Il faut aussi considérer que même au sein du groupe chiite, il y a un autre groupe qui est différent des Hutus, mais il y a un autre groupe qu'on appelle les Karijas. Les Karijas, ça c'est, si je peux traduire le mot Karija en arabe, ça veut dire sorti. Lorsque Ali a adopté cette position de souplesse, et ils ont dit que donc, nous on ne peut pas te suivre, donc nous on sort de ton groupe. Donc au sein des chiites même, il y a une session. Donc, une session dans une session. Donc, du coup, pour expliquer un peu la différence entre sunnites et chiites, c'est le fait même que les chiites ne considèrent pas le prophète Mohammed comme prophète. C'est ce qui est le conflit principal de cette session. Parce que si vous prenez un musulman, par exemple, qui fait l'appel pour la prière, les gens qui ont l'habitude d'écouter les appels, on prononce généralement le nom du prophète Mohammed dans l'appel à la prière chez les sunnites. Mais chez les chiites, ils ne prononcent jamais le nom du prophète Mohammed lorsqu'ils lancent un appel à la prière. C'est généralement le nom d'Ali qui est annoncé lorsque les chiites annoncent la prière.
Ma question, c'était sur les pratiques de la vie de tous les jours ou la place de la femme et de l'homme, s'il y avait vraiment des différences dans la vie quotidienne des gens qui pratiquaient ces religions.
Entre les sunnites et les chiites ?
Voilà.
Bon, et dans la pratique pour les chiites, je ne sais pas trop, mais dans la pratique chez les sunnites, et comme je l'avais dit au départ, les sunnites, c'est les gens qui ont accepté d'appliquer les faits et les pratiques du prophète Mohammed à son vivant. Mais cette application vraiment varie d'un pays à un autre. Si vous prenez par exemple les pays comme l'Arabie Saoudite, si vous prenez par exemple les pays comme le Qatar ou les pays comme la Libye ou un peu presque les pays arabes, la situation de la femme est différente de celle des pays africains. Parce que souvent, ils exigent le voile. Même dans certains pays, même la femme ne peut pas conduire. Il y a plein d'interdictions. Mais si vous prenez par exemple le Mali, il y a des femmes qui se voilent, mais c'est pas comme on peut pas comparer cette situation à des pays comme l'Arabie Saoudite ou par exemple le Qatar. Et la plupart de chez nous, la plupart des musulmans, ils sont pas sunnites. C'est-à-dire ils sont sunnites, mais ils n'appliquent pas la chose comme on le voit en Arabie Saoudite ou dans les pays dans les autres pays sunnites.
Bon, en fait, moi je dirais vraiment depuis que ce courant est venu en Afrique, plus particulièrement, ce courant chiite et sunnite, ça a bouleversé complètement, disons, le monde en général.
Mais ça existe dans la religion musulmane, mais ça existe aussi au niveau des religions catholiques, où dans certains... Bon, pour la France, il y a eu un temps où il y avait les protestants et les catholiques, mais il y a aussi l'Irlande qu'on peut citer en exemple, où il y a eu des conflits. À partir du mouvement où il y a un mouvement de pensée et que les gens interprètent de façon différente certains textes, et que les gens rentrent passionnément, puis qu'il y a des enjeux politiques aussi, parce que les enjeux politiques sont fortement mêlés à ce genre de conflit, ça aboutit à des choses, malheureusement, qui vont contre tout sentiment religieux, je pense.
Moi, je crois bien que si nous, les musulmans, on suivait vraiment le principe du prophète, sans rentrer dans ces détails, vraiment, l'islam allait être vraiment une religion vraiment paisible. Mais avec ces courants, si vous prenez le cas, par exemple, de Boko Haram, C'est des gens qui se réclament de musulmans, mais quel genre d'islam ils pratiquent? Quel genre? Mais moi je dirais que c'est pas de l'islam. Si vous prenez ce qui se passe au Yémen aussi, ces gens se réclament de l'islam, mais est-ce réellement un vrai islam?
Non, parce que dans toute religion en fait c'est aimez-vous les uns les autres.
Oui. Regardez vraiment je ne sais pas si c'est le moment idéal de parler de ça, mais regardez Boko Haram, ce que Boko Haram fait, ou bien les Chebab aussi. Ils viennent, ils tuent des gens, ils tuent des innocents. Moi, je dirais vraiment, je me demande quel islam c'est. Ça salit
tout
sentiment religieux, parce que derrière ça salit même le sentiment d'être musulman, parce que ce qui se passe au Kenya avec ces tueries qui viennent d'être effectuées, où 140 étudiants sont tués, au Nigeria où 200 et quelques filles ont été kidnappées et mariées de force. Ces gens qui font ça se réclament de l'islam, mais moi je trouve ça vraiment un peu bizarre. Et ce qui fait que même en étant musulman, maintenant à travers le monde, surtout dans les pays occidentaux, c'est ce qui se voit à la télé. Donc quelqu'un qui se réclame musulman, des fois même moi je dirais il a du mal même à se dire, écoutez, je suis musulman, à certains endroits quand même, parce que c'est hallucinant. Il
faudrait arrêter de tuer au nom d'une religion.
Au nom d'une religion, oui.
Il faut qu'on se dise la vérité, on ne peut pas enlever le nom de l'islam dans ces histoires. C'est-à-dire que c'est des gens qui... Ils défendent leur intérêt économique en se revendiquant musulmans. Mais dans les faits, ils ne font absolument rien qui a un rapport avec cette religion. Parce que le prophète, de son vivant, il n'a jamais voulu répondre la violence par la violence. Si vous prenez Daesh, au lieu de convaincre les gens, par exemple, par le dialogue, on essaie de détourner les mineurs ou bien les enfants, parce que c'est les cibles privilégiées, donc c'est facile de les détourner et du coup on les transforme en bombes, donc ils n'ont rien à voir avec la religion qui a été pratiquée par notre prophète. Donc souvent même on a du mal même à parler aujourd'hui devant certaines personnes qu'on est musulmans. Voilà.
Ouais, c'est bien, tu nous as rappelé en fait on utilise certaines idéologies et tout ça pour des enjeux économiques et politiques. Donc merci Mamadou de nous avoir éclairé sur cet aspect dans notre monde. Merci.
Nous terminons cette émission, le Ch'ti Bouboui, réalisé en partenariat avec le Centre Social Arras Ouest et Radio PFM. Cette émission est préparée par Christelle, Mamadou, Eladj, Rémi et moi-même, Julien. A bientôt.
Au revoir.
Bye bye.
Salut, à la prochaine.